parce qu'André nous a annoncé que c'était en début d'émission que c'est la journée internationale du chat. Le chat, c'est un être tellement, mais tellement fascinant.
Puis depuis ce temps-là, Monsieur Chat Beau,
Monsieur Chat Beau, bon, ben, j'attendais que quelqu'un fasse le. J'osais pas le faire moi-même, quand même. Oui, Monsieur Chat Beau, j'aime beaucoup ça, hein, Chat Beau, parce que.
Beau chat.
Ah oui, ben Papa. Oui. J'adore les chats. Malheureusement, je suis allergique, alors je suis plutôt un homme à chien, puis ça me prend un chien spécial qui me donne pas d'allergie. Alors, mon petit Gustave fait bien les choses.
Good, good.
Alors, on fait... Ah, puis en plus de ça, je me corrige. J'ai parlé des éphémérides tout à l'heure. Et on dit bien l'éphéméride.
Oui, c'est une éphéméride. En fait.
Alors, pourquoi? Oui. Explique-moi ça.
Ah, c'est comme ça. C'est un nom féminin qui désigne une liste regroupant des événements dans l'histoire qui se sont produits une même journée. En fait, à une même date, on devrait dire ça. Alors, pourquoi on dit une et non les? C'est un des caprices de la langue française qui fait
ça a du sens, parce que si l'éphéméride, c'est une liste déjà, fait que là, on dit les éphémérides, ça serait
des
listes de listes. Ça commence à faire des longues listes. Donc, il y a de quoi justement fouetter un chat. Bon, OK, on continue.
Allons-y donc.
Donc, alors, les faits marquants de ce 8 août 2023.
Je vais y aller par ordre chronologique.
D'accord.
On va remonter assez loin dans le temps, le 8 août 1788. Ça, c'est la date où Louis XVI, le roi de France, convoque les États généraux pour le 5 mai 1789. Ça peut sembler assez anodin en soi comme événement, mais ça marque vraiment le début de la fin pour la monarchie en France. Mm-hmm. Un point tournant. En fait, les États généraux, c'est une convocation du clergé, de la noblesse et de ce qu'on appelait le tiers-État, certaines franges de la bourgeoisie, qui a justement été faite à cause d'une situation politique et financière catastrophique en France à cette époque-là. C'était requis là, pour engager les réformes nécessaires. Mais pour donner une idée du caractère extraordinaire de cet événement, les derniers États généraux avaient eu lieu en 1614. Ça, c'est 174 ans plus tôt. Donc, arrive le 5 mai 1789, l'Assemblée se déroule comme prévu, mais les mesures présentées sont très, très nettement en dessous des attentes, à un point tel que cette journée du 5 mai 1789 marque le début de la Révolution française, rien de moins.
Et qui est tellement inspiré d'auteurs. Ben,
tout à fait.
Là, passant, pas Victor Hugo, parce que Les Misérables, c'est la Révolution de Paris. Ça,
c'est vrai.
C'est
autre chose, autre chose.
Donc, un autre 8 août.
Oui, on se reporte 100 ans plus tard exactement, le 8 août 1888, alors que la police de Londres découvre le corps affreusement mutilé d'une prostituée d'une quarantaine d'années. Quatre autres victimes tuées dans les mêmes circonstances sont découvertes dans les semaines qui suivent. Ça se termine, cette série macabre, le 9 novembre de la même année. Si j'arrête l'histoire ici, Denis Martin, pouvez-vous me dire le nom qui a été donné à ce célèbre tueur?
Mais je connais la réponse, mais je ne vais pas t'enlever le plaisir de le
dire.
De le dire?
Ouais. Jack l'Éventreur.
Jack l'Éventreur, ben oui.
C'est un nom qui a été inventé par le tueur lui-même, Il écrivait cet homme aux journaux de Londres pour revendiquer ses crimes en signant ses lettres « Jack the Ripper ».
Rien de moins.
Un certain égo, je pense.
Ça, toi.
Ce fait divers très, très médiatisé à l'époque a fait prendre conscience à l'opinion britannique de la situation misérable de certains quartiers de Londres, littéralement. La classe politique et les organisations humanitaires ont alors pris des engagements pour améliorer les conditions de vie, particulièrement dans l'East End. Ça, c'est le quartier de Londres où les meurtres se sont produits. En commençant par améliorer l'éclairage public. Ça commence par des mesures extrêmement simples.
Mais c'est quand même incroyable que on est quoi, un petit peu moins que 200 ans plus tard, ça se fait encore. Les meurtres de personnes marginalisées, notamment les personnes qui font le travail du sexe,
absolument.
Ça se continue.
Absolument.
C'est incroyable. Alors, Jack l'Éventreur a fait des petits.
Malheureusement.
Ouais.
Malheureusement. Puis pour dire à quel point l'événement a marqué l'imaginaire, eh bien, le dernier rebondissement dans l'affaire Jack the Ripper, ça date du 4 mai 2023, avec la révélation de l'historien Rod Beatty dans le Daily Mail, selon laquelle les crimes auraient été commis par un certain Bowden Handicott, qui est un agent de la Metropolitan Police qui patrouillait dans le quartier et qui avait eu motif à se plaindre des prostituées et des femmes de manière plus générale.
Ah.
Charmant personnage.
Ouais.
20 ans plus tard, le 8 août 1908, Wilbur Wright effectue son premier vol sur le circuit du Mans en France, le Mans, M-A-N-S. C'est la première fois en Europe qu'un homme vole à bord d'un appareil motorisé et parvient à se poser de l'endroit où il est parti. Alors, devant une centaine de spectateurs médusés, le vol dure 1 minute 45 secondes. Ça, c'est sur 3,5 km à une altitude de 15 à 20 mètres. Ça peut sembler anodin de nos jours, mais il faut se dire que 5 ans plus tôt, le premier vol des frères Wright, ça avait duré un gros 12 secondes. Alors quand même, c'est pas rien. C'était un exploit en soi. On reste dans le monde aéronautique
oui.
avec le Graf Zeppelin.
Coudon, le 8 août, c'est la journée de l'aviation qu'on
c'est,
devrait...
Faut croire. Le Graf Zeppelin, c'est un dirigeable allemand qui commence un vol autour du monde le 8 août 1929. Afin d'assurer la propagande du tristement célèbre Parti national-socialiste allemand, on appelait aussi le Parti nazi, dirigé par Adolf Hitler.
Un autre charmant personnage. Écoute, aujourd'hui, tu te surpasses en charmant personnage.
Oui, mais c'est le dernier, je te rassure.
OK, parfait.
Le tour du monde débute et se termine à la base aéronavale de Lakehurst, dans le New Jersey, avec une durée de vol record de 21 jours, 5 heures et 31 minutes. Un autre fait marquant là, de ce tour du monde, ça a été la périlleuse traversée du Pacifique. Hein. Le dirigeable est passé tout près d'un amérissage d'urgence lors d'une violente tempête. Ça ne devait pas être jojo. Les liaisons radio ont été coupées pendant 2 jours, ce qui a laissé les médias internationaux sous l'impression que l'appareil s'était abîmé en mer. Savez-vous, Denis Martin, pourquoi on emploie le mot Zeppelin pour parler d'un dirigeable là, de manière générique? On dit ça, un Zeppelin...
Ben, j'ai une petite idée, mais je pense que tu vas nous l'expliquer.
Bon. Alors, c'est en l'honneur du pionnier allemand des dirigeables, Ferdinand von Zeppelin, qui débute la construction du premier dirigeable rigide à la fin du 19e siècle. Et d'ailleurs, le Graf Zeppelin dont je viens de vous parler, c'était le plus grand dirigeable de l'époque.
Le Graf, qui est, je pense en allemand, ça veut dire grand ou gros, là, je crois. Ouais.
Oui, je pense. Ou, je me demande si ce n'était pas un titre aussi relié à la noblesse. Mais bon, il faudrait faire une petite vérification là-dessus. Et tel que le rapportait un article paru dans la presse mobile pas plus tard qu'hier, l'utilisation des dirigeables comme mode de transport, mais ça cesse brusquement, ça après le terrible accident du 6 mai 1937, lors de l'incendie du dirigeable allemand Hindenburg, toujours à Lakehurst, d'ailleurs, dans le New Jersey.
Ouais.
Un incendie rapidement alimenté par l'hydrogène du ballon, hein, parce que c'est ce qui permettait au ballon de se tenir facilement dans les airs, et par le carburant diesel des moteurs. Alors, ça a pris 34 secondes avant que le dirigeable s'écrase au sol et ça a tué 34 des 97 personnes à bord. Alors, c'est vraiment une tragédie.
Oui, c'est quand même... Il me semble que... Je pense qu'on... Je sais pas, j'ai toujours l'impression que j'ai vu des images, mais peut-être que c'est un film qui a été refait là-dessus, mais ça
devait être terrible. Ça devait être terrible.
L'hydrogène.
Ça s'est fait tellement... Ouais. Bon, on voit l'intensité des flammes, là, ouais. Je pense que c'est vraiment des images d'archives.
Oui, je crois que oui. Oui.
L'intensité des flammes, c'est vraiment horrible. Pour Donc, terminer la chronologie...
autre 8 août.
Un autre 8 août.
Mais là, c'est drôle, hein? C'est un autre charmant personnage, allons-y.
Oui, oui, peut-être un peu moins pire quand même que les deux précédents.
Quand même. Hein? Oui, quand même.
Richard Nixon,
Richard.
En 1974,
ouais.
hein, qui annonce sa démission à mi-parcours de son deuxième mandat, en échappant ainsi à une démission forcée par le Sénat, par ce qu'on appelle la procédure d'impeachment. Là.
Ouais.
Alors, avant d'être « impeaché », entre guillemets, il s'est lui-même désisté. Alors, je rappelle que la démission, c'est sans précédent. Là, c'est la conséquence de ses mensonges à propos d'une effraction des bureaux du Parti démocrate en juin 72 dans un ensemble immobilier de Washington, le célèbre...
Hôtel Watergate.
Voilà, ça a donné son nom au scandale, bien sûr. Et son implication dans cette affaire avait été mise à jour après sa triomphale réélection par 2 journalistes du Washington Post qui sont...
Bob Woodward et Carl Bernstein. Mais là, exactement. J'avais les noms devant moi, mais je connais cette histoire-là, étant moi-même journaliste de formation.
Exactement.
Hein, c'est quelque chose que j'ai suivi. Alors, ce très cher Nixon a donc décidé de démissionner avant d'être destitué.
Destitué.
Ouais. Je ne sais pas ce qui va arriver avec l'autre menteur.
Oh mon Dieu.
Ouais, lui, il est rendu à je ne sais plus combien. Je pense qu'il y avait un compte de mensonges de Donald Trump. Je ne sais plus. Je pense qu'il a pété.
Il bat tout le monde.
Il a complètement pété.
Il a pulvérisé tous les records.
Alors, vous avez des dates d'anniversaire aujourd'hui.
Oui, on termine avec ça. Alors, du côté des anniversaires de naissance, on débute avec Dustin Hoffman, qui fête ses 86 ans. Acteur très célèbre qu'on a connu notamment au film Kramer contre Kramer, qui lui a valu son premier Oscar de meilleur acteur en 1979. Tootsie. hein, en 82. Quel film, oui. Ouais, vraiment
c'est très drôle.
Drôle,
oui.
On le voit là-dedans, travesti en femme, jouant le rôle d'une bonne à tout faire. Hilarant. Et selon moi, son meilleur, Rain Man.
Oui.
Très émouvant.
D'accord. Je suis d'accord.
Où il interprète le rôle d'un autiste. Mm-hmm. Ça, c'est en 1989. Autre anniversaire, David Howell Evans, qu'on appelle The Edge, le guitariste, pianiste et second chanteur du groupe irlandais U2, 62 ans. Vraiment un des architectes du son caractéristique de U2 là, à la guitare. Le Suisse Roger Federer, un des plus grands tennismen de tous les temps, qui a 42 ans aujourd'hui. Et l'auteur-compositeur-interprète québécois Vincent Vallière, qui fête ses 45 ans.
Bon anniversaire à ces deux-là.
Voilà. Et du côté des décès, c'est en 88 aujourd'hui que décédait Félix Leclerc, auteur, compositeur, interprète, poète, écrivain, etc., etc. Un des grands qui a fait connaître le Québec à l'étranger, qui a connu beaucoup de succès en France à partir des années 50 et grâce à qui on a nommé les prix du gala Félix, de la disque, justement, les Félix.
Ça nous arrive parfois de se fourvoyer comme ça.
Désolé.
Il n'y a pas de problème, André. Alors, bonnes vacances. On ne se revoit pas avant la fin du mois d'août. À ce moment-là, Hélène sera de retour.